Merci Gabriel. Mesdames et messieurs, je suis très touché de voir que vous vous êtes déplacés de bonne heure un samedi matin. Je suis désolé de vous décevoir, je vais probablement vous rendormir par un argument dont le dogmatisme vous réveillera peut-être cependant. En 1802, le médecin allemand Treviranus et le naturaliste français Lamarck formulèrent simultanément et indépendamment le projet d'une nouvelle science qu'ils appelèrent biologie. Le mot avait existé auparavant, mais il n'y a pas de doute que c'est la première fois qu'il a été utilisé de manière aussi solennelle et dans un sens qui correspond parfaitement à ce que, depuis deux siècles, cette discipline est devenue. Treviranus et Lamarck assignèrent chacun un double objectif à la nouvelle science. D'une part, découvrir ce qu'ils appelaient les lois universelles qui rendent possible la vie en général. Ce mot de loi est utilisé par les deux auteurs. D'autre part, dresser le tableau de la diversité et de l'histoire de la vie. Alors même qu'elle n'était qu'un projet, cette biologie se donnait donc comme une connaissance à deux faces. Elle relevait à la fois de la science, au sens fort que ce terme a pris à l'époque moderne, c'est-à-dire une connaissance capable d'atteindre des lois. Elle relevait aussi de l'histoire, c'est-à-dire une connaissance qui rend les phénomènes intelligibles en les ordonnant dans une série temporelle de causes et d'effets. Saisissant l'occasion du bicentenaire de l'introduction de ce mot nouveau, biologie, je m'interrogerai sur le statut de connaissance de la biologie telle qu'elle existe aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui, dans ce domaine de science, la formule d'équilibre entre explication nomologique, c'est-à-dire explication par des lois, et explication historique, c'est-à-dire explication par des causes ? Une réponse précise peut, je crois, être apportée à cette question que je me propose d'exposer. Bien évidemment, la réponse que je vais proposer, et qui d'ailleurs est partagée à la forme près de l'argument par un certain nombre de philosophes et de savants contemporains, bien entendu, cette réponse n'a de sens que par rapport à l'état présent des sciences et à l'état présent des catégories philosophiques qui permettent de la poser. Je n'ai aucunement l'ambition de dessiner les contours d'une quelconque essence de la biologie. Cette question n'a pas de sens. La distinction entre deux régimes des connaissances scientifiques n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, Antoine-Augustin Cournot, inspecteur général de mathématiques, fondateur de l'économétrie et aussi un philosophe de premier ordre, Cournot a fait de la distinction entre théorie et histoire l'un des piliers de sa réflexion sur la méthodologie scientifique. Cournot disait que, mathématiques mises à part, tous les domaines de connaissance, des sciences de la nature aux sciences de l'homme, enveloppent d'une part un élément théorique, d'autre part un élément historique. La connaissance théorique, c'est science au sens fort, vise les lois permanentes de la nature, disait Cournot. La connaissance historique s'intéresse à l'ordonnancement du monde, c'est-à-dire à l'enchaînement, je cite, l'enchaînement des causes et des effets dans l'espace et dans le temps. Cette distinction, selon Cournot, s'appliquait à chaque domaine de science fondamentale, par exemple à la physique, à la chimie, à la géologie, à la biologie, aux sciences du langage, bref, à toutes les sciences. Le mot histoire, évidemment, n'a pas le sens ici qu'il prend dans, disons, dans les organigrammes universitaires, c'est-à-dire l'histoire humaine. La connaissance historique se distingue donc, pour Cournot, par la prise en compte des influences externes, irrégulières, fortuites, en opposition aux résultats réguliers des lois permanentes qui qui régissent des systèmes de constitution connus. Cournot avait été probablement influencé lui-même par le minéralogiste et philosophe anglais William Whewell, W-H-E-W-E-2-L, celui-là même qui avait introduit en langue anglaise l'expression « philosophie des sciences », ou plus exactement « philosophie de la science »,« philosophy of science ». Whewell avait beaucoup insisté aussi sur la distinction entre loi et cause pour correctement apprécier la signification et la valeur du mot « science » et pour correctement classer les sciences. Dans son « Histoire des sciences inductives » 1837, Whewell avait forgé un néologisme succulent, celui de « science paléontologique », le mot étant forgé par référence à paléontologie, étiologie, donc science des causes, et le préfixe désignant évidemment ce qui est ancien et ne reviendra jamais. Les sciences paléontologiques, pour Cournot, ne sont rien d'autre que les sciences historiques. Les termes sont rigoureusement synonymes. Elles ne se contentent pas de décrire par un récit, un enchaînement de causes et d'effets, elles expliquent aussi. Les sciences paléontologiques, présentes pour Whewell dans tous les domaines de connaissances empiriques, étudient la cause des événements, non pas au sens de ce qui agit en tout temps et toutes circonstances, mais au sens de quelque chose qui s'est produit une fois et a eu pour effet un événement qui lui-même a valeur de cause pour le suivant. Whewell émet à citer l'exemple de la formation de telle ou telle chaîne de montagne, la formation de la cordillère des Andes ou la formation des Alpes. C'est quelque chose qui s'est produit une fois, mais qui se prête néanmoins à une reconstruction explicative. Selon Whewell, toute science paléontologique, toute science historique, comprend trois étapes. Une étape phénoménologique ou descriptive qui dégage des sortes de régularités empiriques. Autrement dit, les sciences historiques ne sont pas allergiques aux généralisations, mais leurs généralisations ne sont pas des lois au sens où les physiciens, par exemple, entendent ce mot. Par exemple, lorsque l'on trouve une même sorte de fossile dans une même couche, dans une même couche géologique en Angleterre et en France, eh bien, on a là une description phénoménologique. La seconde phase était appelée par Whewell la phase étiologique, qui dégageait des lois causales. Des lois causales. Par exemple, disait Whewell, c'est une loi causale que les glaciers creusent des vallées en forme de U, tandis que les rivières creusent des vallées en forme de V. Mais loi causale au sens de consécution de deux classes d'événements. Enfin, les sciences historiques ou paléontologiques culminaient dans une phase que Whewell appelait théorique, phase qui présente, dit-il, le système total des faits dans leur succession et dans leur intelligibilité. Whewell ajoutait que cette phase théorique était le terme idéal de la connaissance historique. Il pensait aussi qu'aucune science n'était jamais parvenue à réaliser cet idéal. Et il pensait aussi qu'il était probablement illusoire que la connaissance historique pût parvenir à un tel état. Les exemples favoris de sciences paléontologiques pour Whewell étaient la science du cosmos, la cosmologie, la théorie de la Terre, la théorie de l'histoire des espèces vivantes et la linguistique historique. La théorie de l'évolution, telle qu'elle s'est développée à partir de Darwin et avec l'aide ultérieure de sciences comme la géologie, la génétique, l'écologie, la statistique biologique et quelques autres, nous a aujourd'hui accoutumés à l'idée que l'idéal de Whewell, l'idéal d'une histoire théorique peut être approché au moins dans plusieurs cas. Le cas de la cosmologie vient à l'esprit de tous. Le cas de la théorie de l'évolution biologique en est un autre. Ce qu'on appelle en effet théorie de l'évolution n'a sans doute pas le même sens, dans cette expression, théorie n'a sans doute pas le même sens que dans théorie de la relativité ou théorie de la mécanique quantique. Ce qu'on appelle théorie de l'évolution est une vision intégrée de l'histoire de la vie qui repose, comme le souhaitait Youell, d'une part sur des généralisations descriptives, des généralisations relatives par exemple à des patrons de descendance commune, de spéciation, de divergence des espèces, d'extinction. D'autre part, un corpus de lois causales qui encadre ces patrons descriptifs, et au premier rang desquels il faut compter bien sûr les processus évolutifs modélisés par la biologie des populations. Or, ceci n'est pas sans incidence sur la question du statut de connaissance des sciences de la vie. L'immense majorité des biologistes admettent aujourd'hui que l'évolution est l'horizon ultime de toute leur généralisation, l'horizon d'intelligibilité ultime de toute leur généralisation. On peut rappeler ici la fameuse formule de Théodosius Dobzhansky, l'acteur fondamental et principal de la synthèse moderne, le célèbre généticien des populations. Dobzhansky, vers la fin de sa vie, devant un auditoire, ce n'est pas indifférent, tous les biologistes connaissent cette formule, mais ce qu'ils savent peut-être moins, c'est où elle a été prononcée. C'est une de ses dernières conférences devant l'Association des professeurs de biologie de l'enseignement secondaire des États-Unis d'Amérique. Voici cette formule. Rien en biologie n'a de sens qu'à la lumière de l'évolution. Depuis une quarantaine d'années, nombreux sont les philosophes qui ont souligné qu'il est extrêmement problématique d'interpréter les généralisations biologiques comme des lois. Le philosophe australien Smart a sans doute été le premier à affirmer sans ambiguïté en 1963 qu'il n'y a pas de loi en biologie et qu'il est déraisonnable de penser qu'il puisse en exister. Les généralisations biologiques, en effet, sont presque toujours ce que les philosophes appellent des généralisations accidentelles, généralisations fortuites, c'est-à-dire des généralisations qui sont vraies de facto, mais qui n'enveloppent pas de caractère de nécessité, c'est-à-dire qui ne sont pas dérivables d'un corpus de principes qui, eux, auraient valeur d'authentique loi. Une authentique loi, ce qui est un petit peu un mythe de philosophe des sciences, mais bien utile, et de savant aussi, une authentique loi est un énoncé universel de portée illimitée. Il faudrait peut-être ici être un peu plus précis, un énoncé universel de portée spatio-temporelle illimitée, ou du moins une véritable loi vise cet idéal. Si je dis, pour reprendre un exemple fameux, que toutes les pièces de monnaie contenues dans ma poche sont des pièces en laiton, ceci est un énoncé universel, et il est vrai. C'est un énoncé donc qui porte témoignage d'une propriété qui appartient sans exception à tous les membres de la classe dont je parle, les pièces de monnaie qui sont contenues dans ma poche. Mais bien entendu, personne ne penserait à dire que ceci est une loi. C'est exactement ce qu'on appelle une généralisation accidentelle. La généralité de cette formule est contingente. Elle s'explique cependant d'une série de causes et d'effets particuliers qui ont abouti à cet état de choses hic et nunc. Bien que ceci puisse paraître un peu abrupt, il en va probablement de même pour la plupart, sinon pour toutes les généralisations des sciences biologiques. D'une part, les généralisations biologiques ont presque toujours des exceptions. Il y a, le code génétique n'est pas universel, il n'est pas vrai que les propriétés héréditaires des organismes soient toutes portées par l'ADN, il n'est pas vrai que telle voie métabolique liée à la respiration implique toujours le cycle de Krebs, et des choses de ce genre. Ceci n'est pas un très bon argument. Il y a certaines généralisations biologiques qui sont vraiment universelles, mais qui ne sont sans doute pas des lois. D'autre part, et plus significativement, il n'est pas possible d'interpréter les généralisations biologiques comme signifiant que les choses devraient être ainsi. Devraient, même si l'histoire passée de la vie n'avait pas été ce qu'elle a été sur notre planète. On peut penser ici à la très belle image de Stephen Jay Gould. Il nous dit « Imaginons que l'on rejoue 2000 fois la roulette de l'évolution. Qu'obtiendrions-nous ? Obtiendrions-nous des organismes ayant les mêmes propriétés ? Si c'était le cas, nous pourrions parler de loi en biologie. Si nous en doutons, eh bien, peut-être est-ce un mot qui est de trop dans notre boîte à outils épistémologique. » Nous n'avons guère de raison d'affirmer, par exemple, que s'il existait sur d'autres planètes des organismes aérobies capables de tirer de l'énergie à partir de la dégradation du pyruvate ou des acides gras en hydrogène et en gaz carbonique, nous n'avons aucune raison de penser que de tels organismes le feraient nécessairement par le moyen du cycle de Krebs, le cycle citrique. Les voies et cycles biochimiques, dont l'élucidation a été à juste titre considérée comme un magnifique exemple de la puissance des méthodes physico-chimiques dans les sciences de la vie, ne sont pas déductibles d'un corpus théorique, comme par exemple les lois de Kepler peuvent l'être à partir de la mécanique classique et de quelques énoncés de conditions initiales. La biochimie métabolique des êtres vivants sur Terre est ce qu'elle est. Rien ne nous permet, dans l'état actuel des connaissances, de dire qu'elle doit être nécessairement ceci plutôt qu'autre chose. Rien ne nous permet de nous dire que les circuits biochimiques devraient être ceci plutôt qu'autre chose. Au mieux, pourrait-on dire, par exemple, pour le cycle de Krebs, qui est un cas extrême, puisque justement il a une très grande généralité, au mieux pourrait-on dire, comme Krebs avait tenté de le montrer à la fin de sa vie, que telle ou telle voie métabolique présente des avantages énergétiques et que, bon, elle se rapproche de quelque chose qui a une nécessité naturelle. Au mieux, pourrait-on dire, donc, qu'il y a là quelques contraintes qui forcent l'action de la sélection naturelle. Mais je crois qu'il serait hasardeux de conclure de tels travaux que le cycle de Krebs serait inévitable dans tout organisme aérobie en tout point de l'espace et du temps. Or, ce genre d'énoncé est exactement ce que l'on a en tête lorsque l'on parle de loi. Lorsque l'on dit que le sel est soluble dans l'eau dans telles conditions de pression et de température, on veut bien dire que ce n'est pas simplement ici sur la Terre que c'est ainsi, mais que ceci se passerait en tout point de l'espace et du temps. Le sucre est soluble, le sucre ou le sel est soluble dans l'eau, bien que ce soit un énoncé qualitatif, ceci vaut comme une loi. Nous ne voulons pas dire ici que les biologistes ne font jamais usage de lois. Au contraire, ils le font très souvent. Et dans toutes les branches de leur activité, de la biochimie à la morphologie, à l'écologie et à la biologie humaine. Cela ne veut pas dire pour autant que ces lois soient des lois spécifiquement biologiques, car c'est là la question que je veux soulever. Un anatomiste qui utilise la loi d'Euler pour expliquer la grosseur relative des os des pattes des gros tétrapodes, des éléphants par exemple, pour expliquer la grosseur relative des os de ses pattes, utilise une authentique loi, mais ce n'est pas une loi biologique. Il est partout vrai et nécessaire, dans le monde inorganique comme dans le monde organique et dans celui des artefacts humains, que la résistance à la flexion d'une colonne solide est inversement proportionnelle au carré de sa longueur. Bien sûr, c'est une loi ceteris paribus, il faudrait bien sûr la spécifier, mais nous comprenons ce que cela veut dire. Le philosophe Smart, que je vais citer une nouvelle fois, a donné une formulation très crue de ce caractère des théories biologiques. Ou bien, dit-il, elles ont une authentique universalité nomologique, mais alors elles ne sont pas biologiques. Ou bien elles sont authentiquement biologiques, mais ce ne sont pas des théories scientifiques. Scientifiques étant, en l'occurrence, soulignées. Smart estimait qu'il est aussi peu approprié de parler de lois en biologie que de lois dans le domaine de l'électronique et de la chimie industrielle. Pas plus qu'il n'y a de lois de l'électronique, il n'y a de lois biologiques. Pas plus qu'il n'y a de lois technologiques, il n'y a de lois dans les sciences de la vie. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit que d'appliquer les connaissances générales des sciences physico-chimiques. De même que l'électronique, c'est de la physique plus du câblage, de même la biologie, c'est de la physique et de la chimie, plus l'histoire naturelle. C'est là une opinion largement partagée par ceux, biologistes philosophes ou philosophes de la biologie, qui ont réfléchi sur l'incidence de la conception moderne de l'évolution sur les théories biologiques. Les généralisations biologiques semblent bien être toujours placées sous la tutelle de schémas de causalité historique. Elles sont ce qu'elles sont en vertu d'une histoire évolutive qui présente d'irréductibles aspects de contingence. Je ne veux pas dire que là tout soit le produit du hasard, mais que tout est le produit d'une histoire causale, et donc de quelque chose que nous ne savons pas rendre intelligible autrement que par de tels schémas. Nous voudrions indiquer ici la signification théorique profonde et les limites de l'opinion désormais très répandue que je viens de dire, l'opinion selon laquelle il n'y a pas de lois en biologie. La contingence historique des propriétés des systèmes biologiques a quelque chose à voir avec le genre de dynamique qui les a produits. Selon l'orthodoxie scientifique actuelle, la clé de voûte de cette dynamique est le principe de sélection naturelle, ou plus exactement, une poignée de processus qui rendent possible l'évolution de systèmes autoreproducteurs. Sous ce nom, système autoreproducteur, il faut entendre des systèmes dotés de capacités de réplication robustes, assez robustes pour qu'en règle générale les propriétés soient conservées, mais peut-être pas tout à fait assez pour qu'il n'y ait pas de temps en temps des altérations occasionnelles et transmissibles, par exemple au niveau des gènes, ce qu'on appelle des mutations. Une fois que l'on a de tels systèmes, des processus tels que la sélection naturelle et la dérive aléatoire sont inévitables dans tous les mondes possibles. Les généralisations des sciences biologiques sont, au sens des philosophes, des généralisations accidentelles plutôt que des lois, précisément parce qu'elles ont émergé comme des résultats de tels processus, et en particulier de la sélection naturelle. Comment cela est-il possible? Selon la jolie formule d'Alexander Rosenberg, un collègue et ami, et qui est aussi un proche de François Duchesneau ici présent, la sélection naturelle est toujours une sélection pour une fonction. Elle est aveugle aux structures, très jolie formule. Ou plus exactement, elle est sélection, je corrige un petit peu la formule de Rosenberg, mais je pense qu'il ne serait pas en désaccord, elle est sélection de structures, par exemple des gènes ou des structures plus vastes, à raison de propriétés causales qui n'ont de sens que fonctionnelles. Les structures sont filtrées par un processus qui ne sait apprécier que la performance globale d'une certaine classe de variants dans un environnement donné, peu importe le moyen qui les a produits. Autrement dit, la sélection naturelle ne connaît que des effets. C'est ce qui rend d'ailleurs tous les phénomènes biologiques, c'est ce qui fait qu'ils ont une telle apparence de finalité. Or, ces effets peuvent très bien être accomplis par des structures différentes. Il y a plusieurs manières pour les moustiques de devenir résistants aux pesticides. Il y a plusieurs manières pour un organisme de taille donnée de se protéger du froid ou de la sécheresse. Il y a plusieurs moyens de tirer de l'énergie, de la dégradation des hydrates de carbone, etc. La multiréalisabilité des propriétés fonctionnelles, pour utiliser un gros mot, est la règle des systèmes biologiques. La sélection naturelle, étant un agent dont les effets ne sont jamais intelligibles qu'en référence à une situation locale, il en résulte qu'elle a opéré dans l'histoire de la vie comme un générateur de diversité. Cette action diversifiante est déjà évidente à l'échelle des variétés géographiques qui composent une espèce. Elle l'est plus encore du point de vue des espèces, dont chacune est un paquet d'informations génétiques isolées d'autres paquets semblables. La sélection naturelle est ainsi la racine de la contingence des systèmes biologiques, dans la majorité et sans doute dans tous leurs attributs de systèmes biologiques. Des phénomènes stochastiques tels que la dérive aléatoire amplifient évidemment ce caractère. De nombreuses propriétés des systèmes vivants, en particulier au niveau le plus élémentaire de leur description, le niveau moléculaire, sont vraisemblablement des accidents congelés de manière totalement fortuite. C'est ainsi que l'on explique, à défaut de mieux, le fait que tous les acides aminés composant toutes les protéines de tous les êtres vivants sont lévogyres. Voici une propriété universelle, sans exception connue, mais ce n'est certainement pas une loi. Rien ne nous permet de dire qu'il devrait en être de même pour tout être vivant composé de protéines, où que ce soit, dans le cosmos, dans le pré. Les sciences de la vie se trouvent ainsi dans une situation théorique singulière. La contingence des propriétés des systèmes vivants résulte, non pas à proprement parler d'une exploration au hasard d'un nombre faramineux de combinaisons, vieux principe épicurien mais ici inadapté, mais d'un principe, la sélection naturelle, qui contrôle la dynamique évolutive dans son ensemble. Et c'est ici que l'argument que j'ai jusqu'ici présenté, à savoir qu'il n'y a pas de loi en biologie, se retourne, comme toujours d'ailleurs, dans un argument philosophique. Il serait, faut pas se cacher ces idiosyncrasies, il serait inopportun en l'occurrence d'objecter que le principe de sélection naturelle dépend de certaines prémisses biologiques particulières. De dire par exemple que sa validité, sa plausibilité dépend de la génétique mendélienne et de la reproduction sexuée qui lui est associée, ou de quelque autre forme de génétique. Il est historiquement vrai qu'au XXe siècle, la génétique a conféré à l'hypothèse de sélection naturelle une rigueur opératoire et une testabilité qu'elle n'avait pas auparavant, mais elle n'en dépend pas intrinsèquement. D'un point de vue théorique, il n'est pas vrai que la validité du principe de sélection naturelle dépende de la génétique mendélienne ou de toute forme de génétique. Il suffit, pour s'en rendre compte, de rappeler l'existence de phénomènes tels que la non-disjonction ou la distorsion de ségrégation. Je remercie ici Gabriel Gachelin, qui il y a quelques jours, un petit peu anxieux d'écrire ce texte, m'a permis de rafraîchir ma mémoire et de préciser l'exemple. Il y a non-disjonction lorsque des chromosomes homologues ne se séparent pas à la méiose, ce qui conduit évidemment à ce que la première loi de Mendel, la loi de pureté des gamètes ou de ségrégation, soit infirmée. Il y a distorsion de ségrégation lorsque, pour un locus donné, plus de 50% de gamètes d'un type sont produits. Par exemple, dans le cas du locus T de la souris, dont nous avons là un grand spécialiste, aberration chromosomique qui détermine une absence de queue lorsqu'elle est présente à l'état hétérozygote, eh bien, les souris mâles hétérozygotes, dans ce cas, produisent jusqu'à 99% de gamètes de type T, donc des gamètes altéré. Ce qui veut dire qu'un caractère qui est extraordinairement désavantageux a des chances énormes de se propager dans une population. La distorsion de ségrégation peut être produite par divers mécanismes, dont certains sont méiotiques, dont d'autres sont post-méiotiques. Ces deux exemples, la non-disjonction et la distorsion de ségrégation, modifient dramatiquement les proportions mendéliennes. En fait, elles constituent des exceptions avérées à la première loi de Mendel. Les exceptions à la première loi de Mendel sont rares, mais le fait qu'elles soient possibles, et il y en a quelques autres, et qu'elles puissent résulter de plusieurs mécanismes, eux-mêmes génétiquement conditionnés, montre que ces lois, et en particulier la première sur laquelle repose l'équilibre dit de Hardy-Weinberg et tout l'édifice de la génétique des populations, ceci montre que ces lois ne peuvent être considérées comme des lois de la nature au sens fort du terme, c'est-à-dire des énoncés généraux présentant un caractère de nécessité théorique. En réalité, ce qu'il faut expliquer, c'est la rareté des écarts à la loi mendélienne de disjonction. Il est en fait raisonnable de penser que des anomalies, que ces exceptions à la première loi de Mendel ont été sévèrement contre-sélectionnées. Et nous voyons ici que donc ce n'est pas le principe de sélection qui dépend de la génétique des populations, mais l'inverse. Ceci signifie qu'il n'est pas possible de formuler et de dériver le principe de sélection dans toute sa généralité à partir de la génétique, comme on l'a souvent fait. Si l'on prend le mot de loi au sérieux, c'est-à-dire comme signifiant un énoncé universel de portée illimitée, il n'y a pas de loi de Hardy-Weinberg, car l'équilibre de Hardy et Weinberg est une extrapolation à partir de la première loi de Mendel, qui, je suis navré de le dire aux biologistes, n'est pas une loi. En réalité, la validité de la première loi de Mendel, ou de ce que l'on appelle ainsi, est suspendue à une histoire contrôlée par la sélection naturelle. Bref, bien que la génétique ait en pratique joué un rôle historiquement capital dans l'accréditation de l'hypothèse darwinienne de sélection naturelle, comme j'ai essayé de le montrer dans un livre écrit il y a quelques années sur ce sujet, il n'est pas théoriquement raisonnable de chercher à fonder l'universalité du principe de sélection sur le corpus de la génétique. Ce genre de raisonnement mérite sans doute d'être généralisé. Le principe de sélection naturelle ne peut être fondé sur aucune théorie biologique faisant référence à des structures ou des processus dont nous savons pertinemment qu'ils ont été eux-mêmes le produit d'une longue évolution. Il est légitime en pratique de se contenter d'une formulation particulière du principe de sélection naturelle dans des cas particuliers et pour faire des prédictions pour des objectifs théoriques et pratiques qui nous intéressent. Mais c'est une inconséquence théorique que de définir la sélection naturelle à partir de certains modèles biologiques particuliers. Lorsque l'on songe que probablement dans les trois quarts de l'histoire de la vie, des notions comme une notion même comme celle d'organisme n'était pas quelque chose qui avait le sens que nous pouvons donner à la chose, je crois qu'il est essentiel de se souvenir que l'on ne peut pas raisonnablement faire reposer l'intelligibilité du principe de sélection sur quelque théorie biologique que ce soit. La biologie évolutive d'aujourd'hui se contente en réalité d'une caractérisation abstraite de la sélection naturelle qui la rend indépendante de toute théorie biologique particulière et en particulier de la génétique des populations. Le généticien Richard Leontine a été le premier en 1970 à formuler clairement un tel concept généralisé de sélection qui en pratique ne sert à rien dans des cas particuliers mais qui permet de comprendre la structure de l'explication sélectionniste, c'est-à-dire son usage dans des contextes extrêmement variés et en donnant précisément au processus de sélection naturelle, en en donnant des modèles variés à l'infini. La sélection naturelle est un processus, disait Lewontin, qui exige l'existence d'entités biologiques ou non qui ont simplement et simultanément trois propriétés, variation, reproduction, héritabilité. Il faut une classe d'objets dans lequel il y ait des variants. Il faut que ces objets soient capables de s'auto-reproduire et il faut qu'il y ait corrélation entre les variations et d'autre part les chances de survie et de reproduction. De telles propriétés, variation, reproduction et héritabilité, qui ne font référence directe ni aux gènes, ni aux organismes, ni à quelques structures biologiques particulières, sont parfaitement concevables pour de nombreux niveaux d'organisation dans les systèmes biologiques, mais aussi probablement dans certains systèmes chimiques, ou encore dans des systèmes techniques artificiels que nul ne songerait à qualifier comme des êtres vivants. Si mon analyse est juste, elle a pour conséquence que le principe de sélection naturelle, à la différence de toutes les autres généralisations biologiques, a une structure telle qu'il autorise des énoncés contrefactuels. Autrement dit, il a une structure qui pointe dans le sens de quelque chose que l'on appelle depuis bien longtemps loi. Il définit des contraintes dynamiques qui s'appliquent a priori à toute population de systèmes autoréplicateurs qui pourraient exister en tout point de l'espace et du temps. Nous serions raisonnables de penser, comme on le fait dans les systèmes de recherche exobiologique, que le principe de sélection naturelle s'appliquerait à des organismes qui, par exemple, vivraient à 200 ou 300 degrés et dont les structures seraient fondées sur le silicium, par exemple, plutôt que sur le carbone. S'il y a donc quelque chose de nomologique dans les sciences biologiques, c'est moins dans la structure et le fonctionnement des systèmes organiques que dans la dynamique de production de ces systèmes à l'échelle de l'histoire générale de la vie. Et donc à ceux qui disent qu'il n'y a pas de loi en biologie, ce n'est pas une science nomologique, il faut répondre, messieurs, mesdames, vous ne cherchez pas au bon niveau. Il y a un niveau où la biologie récupère le titre de science. Ce niveau ressemble beaucoup à celui que les physiciens connaissent lorsqu'ils considèrent que le principe fondamental de la dynamique est la proportionnalité de la force à la masse et à l'accélération, F égale M gamma. De même que le principe fondamental de la dynamique, F égale M gamma, surplombe l'ensemble des phénomènes du mouvement dans la mécanique classique, sans se préoccuper de la nature des forces, je termine, ni de la forme des masses auxquelles il s'applique, De même, le principe de sélection surplombe l'ensemble de la dynamique de l'histoire de la vie. L'un et l'autre principe sont, comme disent les physiciens, des lois conséquences, c'est-à-dire des lois qui décrivent non pas la manière dont les forces sont produites, mais la manière dont elles agissent. Une loi conséquence est le contraire d'une loi source. Une loi source décrit la manière dont un certain type de force, par exemple la force de gravitation ou la force électrostatique, est engendrée. Les lois conséquences sont des lois qui surviennent, pour reprendre un terme utilisé par François Duchesneau dans sa conférence l'autre jour, par rapport aux forces particulières qui les engendrent. Elles relèvent en ce sens du plus haut niveau d'abstraction dans les théories scientifiques qui prennent la forme d'une dynamique. C'est à ce niveau d'abstraction, donc celui du principe qui surplombe l'ensemble du processus historique que constitue l'évolution, que la biologie mérite son titre de science. Mais faisons bien attention à ce que cela veut dire. Le principe qui surplombe la biologie n'est, bien que ce soit une loi conséquence, mais présente une différence importante avec le principe fondamental de la dynamique qui surplombe la mécanique. En mécanique, nous disposons de lois sources qui nous disent comment les forces sont engendrées. Dans le cas de la biologie, il n'existe pas de telle théorie. Le principe de sélection est un principe dont l'intelligibilité n'est jamais que locale et donc réfère à des situations indéfiniment variées qui produisent les différences de fitness. Le principe de sélection naturelle est ainsi peut-être l'unique schématisme des sciences biologiques qui est un caractère nomologique. Mais ce schématisme est précisément la base explicative ultime d'une science qui est par ailleurs historique et causale de part en part.